Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser vos idées, l'émission qui secoue les méninges sans se prendre la tête. On commence de suite avec nous-mêmes.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
C'est vrai.
Alors on a décidé, modestement ou pas, de parler pour les sans-voix. Aujourd'hui, on va parler de mal-logement. Peut-être que Jean-Michel peut nous parler des Petites Pierres, une association.
Oui, c'est un document des Petites Pierres qui stipule qu'en France, il y a plus de 450 000 logements occupés qui sont considérés comme indignes. Et les locataires sont surreprésentés parmi les personnes confrontées à un défaut majeur de qualité dans leur logement. En cas de logement insalubre, comment alerter ou porter plainte? Faisons le point sur les démarches possibles. Donc bon, on va essayer de donner une définition d'un logement déjà insalubre. Le logement insalubre désigne un habitat qui ne respecte pas les normes de salubrité, d'hygiène et de santé, exposant ainsi ses occupants à divers risques. Outre les problèmes courants, comme les infiltrations d'eau, les fissures, ils peuvent présenter des dangers graves, tels que la présence de moisissures, ou de substances toxiques comme le plomb ou l'amiante. Ces conditions précaires affectent la santé et le bien-être des habitants, en particulier les plus vulnérables, les jeunes, les personnes âgées. Par ailleurs, la précarité énergétique est souvent associée à ces logements, entraînant des surconsommations énergétiques et des difficultés pour maintenir un niveau de confort thermique adéquat. Voilà, c'est commencement de document des Petites Pierres. Je vais tout de suite vous donner un numéro de téléphone si vous voulez contacter. Je vous le donne, c'est 0806 706 806. Voilà, 0806 706 806. Si vous avez un logement insalubre, Dieu sait si dans la région il y en a. Et maintenant, Lydia va nous témoigner de son témoignage.
Ouais, alors moi j'ai eu un logement où effectivement la moisissure a très vite fait son apparition. Et la réponse, alors qui est la réponse qu'on donne généralement à tous les locataires qui ont ce problème, c'est ouvrez vos fenêtres. Voilà, alors quand tu dis, mais en fait je les ouvre, non mais pas assez. Non, le problème c'est les murs, c'est pas... Il y a un défaut dans le logement, c'est pas d'ouvrir les fenêtres, ça changera rien. La moisissure est là. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que vous avez ce genre de problème et que vous parlez autour de vous, toutes les personnes qui ont eu ça, c'est toujours la même réponse qu'on leur donne. C'est-à-dire que la première réponse, ça devrait être il faut réparer ça, il y a quelque chose à faire sur les murs, changer la peinture, j'en sais rien, moi.
Oui, en fait, c'est de leur faute si c'est dégueulasse chez eux, quoi.
C'est ça. Voilà. C'est de la faute des locataires.
Voilà.
Et alors, faut dire que c'est souvent aussi, quand on commence à vous répondre ça et qu'on répare pas, c'est souvent aussi que vous êtes dans un moment de votre vie où déménager, ça va pas le faire. Vous êtes sans emploi, vous dites je vais pas retrouver un logement, alors vous restez. Et puis c'est pas trop cher. Ça reste trop cher pour ce que c'est, mais c'est pas très cher. Et vous restez. Alors il y avait quelque chose que je voulais rajouter aussi, c'est que le logement insalubre, c'est aussi le début de peut-être le sans logement. Parce que justement, il y a des personnes qui restent dans un logement insalubre. Parce qu'il faut se dire, imaginez, vous êtes dans un logement insalubre, il faut que vous fassiez un préavis de 3 mois avant de le quitter. Mais si entre-temps, vous ne retrouvez pas autre chose, comme vous n'avez pas de thunes, et vous vous retrouvez à la rue. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à la rue, ça a commencé comme ça, par un logement insalubre. Voilà. Donc, il y a des associations pour vous soutenir, pour au moins forcer la main du propriétaire pour faire ce qu'il faut. Il y a aussi la précarité énergétique. Alors, il y a aussi pas mal de logements qui sont sans... On ne peut plus louer maintenant, normalement, s'il n'y a pas de double fenêtre, des choses comme ça. Mais si vous louez depuis 20 ans, vous allez rester avec les fenêtres que vous aviez, qui laissent passer le vent, la pluie, l'eau, enfin tout. Voilà. Et mais vous pouvez vous faire aider, donc bah, l'association Les Petites Pierres.
Oui, les petites pierres, oui, bien sûr. Donc, bah oui, les logements insalubres, souvent, on a des problèmes, bah, oui, d'humidité. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont, en fait, c'est noir, les murs sont noirs chez elles, à cause des infiltrations d'eau, de la non-ventilation de la pièce. Et bon, à l'époque, c'était une pièce apparemment, enfin des pièces apparemment qui étaient faciles à vivre. Donc, le propriétaire avait décidé de mettre un double vitrage, sauf qu'il n'a pas mis
Ventilation.
d'évacuation d'air. Donc, pour renouveler l'air dans la pièce, bah c'est impossible. Et donc, évidemment, l'humidité s'installe et on trouve des traces noires partout dans la maison. Les affaires pourrissent, les chaussures, tout, quoi. C'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai. Après, vous avez aussi Bon, je ne vais pas donner de nom d'habitat, hein. Bon. Mais bon, vous avez aussi des infiltrations d'eau qui viennent directement des toits, qui s'infiltrent. Je connais aussi des personnes qui sont dans ce cas-là, ou avec des enfants, qui les enfants sont malades, voilà, d'une façon récurrente. Et voilà, c'est pas possible pour ces enfants d'aller dormir dans leur chambre puisque la chambre est noire. Elle est remplie de moisissures. Bref, c'est vraiment une atrocité. Et les gérants ne font rien ou presque rien, quoi. Voilà. Après, les locataires aussi. Je pense que les locataires n'ont pas non plus. Non, c'est pas un manque de volonté. C'est pour éviter de se faire stigmatiser, d'avoir l'index sur soi, quoi, en disant oui, c'est toujours un râleur, toujours des râleuses, toujours des. Mais non, en fait, non, pas du tout. Il y a des logements qui sont, je répète, insalubre. Donc, bah, je vais vous redonner le numéro de téléphone si vous êtes dans ces cas-là. Alors, c'est le 0806 706 806. 0806 706 806. Donc, vous pourrez, si vous avez des difficultés dans ce sens, vous pouvez téléphoner à ce numéro de téléphone. Et il me semble que vous aurez des renseignements pour un peu vous dépatouiller de cette affaire. Voilà.
Il y a une petite précision aussi, c'est pas forcément des propriétaires privés, c'est aussi des institutions, des offices d'HLM,
oui,
hein, clairement.
Oui, tout à fait, c'est pour ça que je voulais pas donner
ben
de
oui,
nom.
Mais bon, c'est,
mais oui, tout
il
à
faut
fait.
Le préciser, parce que sinon c'est pas juste, déjà.
Oui,
mais
c'est
par
vrai.
Contre, les offices d'HLM, ils ont quand même un devoir. Ils ont les moyens, ils ont souvent
Oui,
des aides.
oui, c'est dans leur charte en plus.
C'est ça.
Voilà, c'est dans leur charte d'entretien leur propre charte, d'entretien des locaux. Alors que bon, il se passe quand même. C'est différent, quoi. Entre ce qui se passe et les actes, il y a quand même un fossé.
Non.
Voilà, bon, il faut noter aussi qu'il y a des propriétaires qui sont indélicats, hein, aussi des organismes qui sont indélicats, mais il faut noter aussi qu'il y a des propriétaires qui sont bienveillants.
Oui.
Et ça, il faut le dire aussi, qu'il y a des propriétaires qui sont à l'écoute de leurs locataires et qui n'hésitent pas à entamer des travaux quand c'est nécessaire. Voilà, et ça, il faut quand même le noter. On ne va pas non plus taper sur tout le monde, alors que bon, c'est une infime partie, mais ça suffit pour pourrir la vie
non,
des gens.
On peut
gens,
taper
quoi.
Sur les offices d'HLM, parce qu'il ne faut pas déconner.
Voilà. Bon, voilà, c'est... Voilà.
Bon, sinon, tu vas nous faire un petit quiz, Jean-Michel?
Bon, oui, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, salut les loulous, salut les louloutes, Sika tout le monde, ça va ou quoi? Rebonjour, ouais, j'ai rien entendu. Oh bah bon, vous êtes muets aujourd'hui, ouais. Alors, comme il n'y a pas assez de musique sur Radio Escapade, on va parler de musique. Alors, faites valser vos idées. À vous de deviner de quel groupe ou de quel artiste je parle. Vous allez me dire, mais c'est un quiz.
Ouais.
Non, vous dites rien du tout. Alors, c'est un duo de musique électronique anglais fondé en 1992 à Manchester et composé de Tom Rowland et de Ed Simon, deux anciens étudiants en histoire médiévale de l'université de Manchester, initialement nommé The Dust Brothers. Avec des artistes comme The Prodigy ou Fatboy Slim, ils font partie des pionniers qui ont mis le genre Big Beat à l'avant-garde de la culture pop. Ils ont connu un succès généralisé lorsque leur deuxième album Dig On Own All, Creuse Ton Propre Trou, a dominé les charts britanniques en 1997. Le duo est également connu pour ses prestations scéniques brillantes.
Thank you.
Alors, c'était Music Response sur l'album Surrender de 2012. Alors, vous savez c'est qui ?
Non.
Eh ben non, vous savez pas. Bah alors, à tout à l'heure. Et ben tout de suite, c'est Alidja.
Merci Jean-Michel.
Avec plaisir.
Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie. Alors, ça fait un petit peu plus d'un mois et il s'est déjà passé des trucs. Et ouais. Donc, il y a 4 millions de comptes qui ont été supprimés. Les parents disent que leurs gamins sont toujours sur leur téléphone. Le gouvernement australien lui dit « Ouais, c'est un grand succès ». Et les gamins, ils disent « Ben, on a juste changé de réseau, en fait hein ». Donc voilà, ça marche moyen. Et Reddit, alors Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, c'est un gigantesque forum avec des sous-forums, des milliers de sous-forums et tout. Et c'est un des plus vieux réseaux sociaux sur le net, hein, il date de 2005. Et il fait partie des plateformes qui ont été visées par l'interdiction aux moins de 16 ans. Et alors Reddit a décidé de porter plainte contre le gouvernement australien parce que la loi porterait atteinte à la liberté implicite de communication politique et qu'elle a l'effet regrettable de contraindre les adultes comme les mineurs à des processus de vérification intrusifs et potentiellement peu sûrs. Alors, le gouvernement australien a répondu « Bon, en fait, on s'en fout, hein, parce qu'on est du côté des enfants et des parents, pas des plateformes. Nous ne céderons pas afin de protéger les jeunes Australiens des dangers des réseaux sociaux. » C'est donc une affaire à suivre. On ne sait pas si la plainte va aboutir ou pas, mais pour l'instant, Reddit, ils ne font rien. Hein, donc, tout le monde peut continuer à y aller. Et on verra ce que donnera la plainte. Bon, c'est assez amusant. Et en France, depuis le 26 janvier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, ça ne va pas être tout de suite. Hein. Si la loi finit par être appliquée, ça sera vers le mois de septembre, je pense. Et la grande question qui va se poser, c'est un peu comme l'Australie, quoi. Comment on vérifie ? Parce que bon, c'est aux plateformes de faire les vérifications. Mais les plateformes, elles n'ont pas tellement envie d'aller demander leur pièce d'identité aux gens et de toute façon, les utilisateurs ne sont pas du tout disposés à fournir leur pièce d'identité. Donc, c'est un peu compliqué, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, nous, normalement, ici en France, on devra utiliser France Identité ou une application dite tiers de confiance. Alors, c'est des applications qui font en double aveugle. C'est comme pour les sites porno, on a déjà ça en France. Alors les plateformes vérifient l'âge, les tiers de confiance vérifient l'âge en ligne. Et c'est un vérificateur d'âge indépendant, mais bon, c'est pas trop qui quoi. Hein. Enfin, c'est des entreprises privées qui font des applications, clairement. Et l'appli connaîtra par exemple mon âge. Mais elle ne sait pas qui la demande, pourquoi je la veux et tout. Enfin voilà, donc c'est assez... Et donc ça serait pareil pour toutes les plateformes, ce qui veut dire qu'on va nous demander à chaque fois
mais on peut
de
mettre, prouver. On peut mettre ce qu'on veut comme âge en fait.
Non, parce que justement c'est là qu'on va leur donner à ce tiers vérificateur, cette application, eux ils auront la vraie preuve de notre âge.
Mais comment ?
Avec une pièce d'identité. En fait, on va leur fournir notre pièce d'identité. Tout simplement.
D'accord.
Alors, il y aura des trucs, ça pourrait être un QR code et avec notre visage. Tu vois, il y a à chaque fois, on peut... Mais voilà.
Donc, encore fliqué, quoi.
C'est ça. Alors, justement, c'est pas que je suis parano, mais tout de même, quel formidable outil pour un État qui voudrait surveiller et contrôler ses citoyens. Alors, non, mais ça fait un peu un monde orwellien, quoi. C'est 1984, un peu. Alors la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a estimé qu'elle protégeait suffisamment la vie privée, ce genre d'application. On est vachement rassurés en fait, c'est pas intrusif du tout.
Ça va, on donne pas non plus le code secret de ta carte bleue.
C'est... Ouais, bon, enfin déjà il y a ta pièce d'identité, t'as plein de trucs. Ça fait chier quand même. Voilà. Bon, de toute façon, on sait l'anonymat sur Internet n'existe pas vraiment. Les grandes plateformes numériques peuvent transmettre des informations permettant d'identifier des auteurs de contenus illégaux, même planqués derrière les pseudos. On le sait, hein, parfois, la police fait appel à eux. Donc,
Jean-Michel
bon.
Trogneux, par exemple.
Et quand... Et combien de vos démarches administratives sont dématérialisées? Ça fait belle lurette qu'on a livré notre identité à la toile. C'est jusque-là, on nous en rajoute une couche. Le danger, donc, c'est ces applications tiers de confiance. Moi, j'aimerais savoir d'où elle vient la confiance. Ça s'appelle comme ça. C'est juste pour nous rassurer, je crois. Alors, elles peuvent très bien revendre nos données à des fins marketing. Je vous rappelle que ça sera des trucs privés, en fait, hein. C'est des boîtes, elles sont là pour faire de l'argent. Et elles peuvent aussi subir des cyberattaques. Après tout, même l'administration ou la poste subissent régulièrement des fuites de données. Donc, et a priori, ce genre d'application n'a pas encore démontré sa capacité à faire face à des cyberattaques d'ampleur. Alors la question, c'est surtout, est-ce que c'est bien nécessaire? Plutôt que de s'attaquer aux mécanismes algorithmiques qui captent l'attention des ados et qui leur fait du tort, on restreint, on interdit, on empiète sur nos libertés encore un peu plus. Donc, on oublie que ces plateformes sont aussi pour ces jeunes des moyens de créativité, d'expression et d'autonomie. Quand on construit des parcs pour des enfants, alors je sais que c'est un peu un exemple, mais c'est la vérité, on y met des garde-fous, des barrières, et on laisse les gamins jouer parce que c'est censé être sécure. Cela devrait être pareil avec les réseaux sociaux. C'est aux géants du numérique qui, eux, ont les moyens de sécuriser leur plateforme. Parce que sérieusement, là, on a quoi? Une interdiction que les ados vont se faire un plaisir de braver, des applications tiers de confiance qui vont avoir potentiellement la capacité de vendre nos données sans avoir la capacité de contrer des cyberattaques d'ampleur, une possibilité de flicage de la part de l'État et des jeunes qui peuvent toujours se balader sur la toile, sauf que là, on ne sait même plus trop où ils traînent. Allez, vos papiers, s'il vous plaît.
Oh, so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until. About a guy, you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again. Starts another big riot. You blow a fuse, simple. The devil cuts loose, simple. So what's the use? Wow! Of falling in love. Have a faith. hit, the sky is scorching, I got hit, there's no mistake, this is it! Till it's over, and then... It's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, say boom, the Democrats lose, say boom, so what's the use? Wow, I'm falling in love. The sky gives in, the Democrats lose. You blow, 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 blow your fuse. Ah! When you fall in love.
C'était Björk, It's So So Quiet. Et maintenant, Jean-Michel continue son quiz.
Alors, retour au quiz. Alors, le groupe dont je parle compose la musique de plusieurs films, de jeux vidéo aussi, comme par exemple Pro Evolution Soccer 2010. Il compose aussi l'hymne officiel des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ils sont en fond sonore sur l'émission Téléfoot sur TF1, dans la série Misfit, excellente série, voilà, avec des personnages, des jeunes personnages qui ont des super pouvoirs, bref. Ils réalisent aussi quelques musiques de pub, voilà. Ils se produisent en live avec des centaines de concerts, souvent jouent à guichet fermé, donc dans le monde entier. Hein. Ils ont réalisé 10 albums. Leur premier album, Exit Planet Dust, le 15 avril 1995. Et leur dernier album, For That Beautiful Feeling, sorti le 8 septembre 2023. Mais maintenant, on prend un vol pour New York ou Bali. Allez, souvenez-vous.
Just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. I think I left your backseat. Thank you.
C'était Sleep From Day. Alors, c'était une époque formidable à l'époque. Donc, c'est une musique de pub qui passait à la télé pour une fameuse compagnie aéronautique française, dont je ne dirai pas le nom, parce qu'on ne fait pas de pub ici. Alors, si vous voulez écouter une bonne partie de leur production musicale, eh ben, allez sur YouTube. Merde, de la pub. C'est gratis. Bon, avec quelques pubs justement qui parasitent le truc, mais bon, vous cliquez sur skip et pour passer les pubs et vous tapez The Chemical Brother ou en français The Chemical Brother. Voilà. Alors maintenant je vous rappelle un peu les fréquences. Sur le 102.0 à La Salle, le 103.3 à Ganges et au Vigan. Le 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort et sur www.radioescapade.org dans le monde entier et dans tout l'univers connu. Mais maintenant, on continue avec Jean-Pierre pour une histoire historique, mais très, très sur le thème du crime, je pense. À toi, Jean-Pierre.
Merci Jean-Michel. Si je ne te connaissais pas, je penserais que tu as des dons de divination.
Non, c'est parce qu'on a préparé l'émission.
Ah, c'est pour ça. Oh là là.
Bah oui.
Allez, en 1840, éclate une affaire où un artisan, maître de forge du nom de Charles Lafarge, trouve la mort après une semaine de terribles souffrances. Celui-ci décédera le 14 janvier, mais sa mort est entourée de suspicions. Des suspicions qui viennent notamment de sa mère. Cette dernière accuse l'épouse de son fils de l'avoir tué par empoisonnement. Un juge d'instruction va se rendre au domicile de la victime dans le Limousin. La famille l'attend avec des pièces à conviction. La famille lui fournit des bouillons donnés par son épouse ainsi que des échantillons de vomissements pour faire des analyses. Le juge apprend dans la foulée que Marie Lafarge a préparé une bouillie avec de l'arsenic pour tuer des rats. Devant tous ces éléments, le doute s'installe chez le juge qui demande une autopsie du corps de Charles Lafarge. L'autopsie est faite par les médecins qui l'ont soigné et aucune certitude n'en ressort. Bref, on ne sait pas de quoi cet homme est mort. Le 26 janvier 1840, Marie Lafarge est arrêtée et placée en détention. Sa chambre est perquisitionnée et on cherche de l'arsenic et on découvre dans un petit meuble, une petite commode, des pièces, des perles et des diamants. Et il s'avère que ces bijoux appartiennent à une de ses amies et ils ont fait l'objet d'un vol. Alors elle va être poursuivie pour vol et condamnée 6 mois plus tard à 2 ans de prison. Mais bon, elle va sortir de prison parce que vient le temps pour elle de retrouver la cour d'assises pour l'assassinat présumé de son mari. Le tribunal qui est bondé découvre alors la prévenue. Il s'agit d'une jeune femme au visage innocent et toute vêtue de noir. Les premières questions qui lui sont posées permettent de mieux situer son parcours. C'est la fille d'un baron décédé. D'ailleurs, il est décédé alors qu'elle était toute jeune. Elle vivra dans le château de son oncle et mènera une vie oisive jusqu'au décès de cet oncle en 1838, après quoi elle vivra seule et sans fortune. Jusqu'au jour où des amis à elle lui font, veulent déjà la marier, et puis lui font rencontrer un homme. Et cet homme, il est veuf, et il est riche. Et il s'appelle Charles Lafarge. Alors, c'est un homme qui n'est pas très séduisant, mais sa situation est aisée. Il a une entreprise et un château au milieu de la nature, dans le Limousin. Voilà de quoi forcer la décision. Alors, entre les deux amoureux, un mariage est vite organisé et les jeunes mariés rentrent dans le château de M. Lafarge. Et c'est une fois arrivé à destination que Marie Lafarge se rend compte que la réalité n'est pas du tout celle qu'on lui a décrite. Alors l'entreprise, vous savez, qui était une entreprise florissante, et en fait, elle est en faillite, donc elle est florissante dans la faillite. Et le château, ben en fait, c'est une espèce de vieille baraque complètement humide. Tout à l'heure, on parlait
d'insalubrité.
On parlait d'insalubrité. Ben, vous voyez, c'était un peu insalubre.
À l'époque, déjà.
Et pour couronner le tout, cette vieille baraque est occupée par la famille de Charles Lafarge, qui est extrêmement déplaisante et qui accueille fort mal son épouse. C'était peut-être l'humidité, d'ailleurs, qui les rendait comme ça. Hein. Bref, alors l'ambiance... Vous l'avez trouvé, elle est pas, c'est pas à la fête. Hein. Bon. Alors pendant quelques semaines, chez Marie Lafarge, la déprime s'installe. Elle menace de se suicider avec de l'arsenic. Et puis, au bout d'un moment, tout s'arrange. La déprime s'atténue, elle disparaît, et l'épouse devient plus aimable avec son mari. Alors ce dernier va avoir la dot de son épouse, et il va se précipiter à Paris pour souscrire un emprunt, pour relancer son entreprise. Et alors qu'il est encore à Paris, Charles Lafarge reçoit un gâteau que son épouse lui envoie et qu'elle a préparé. Bon, il s'agit, je vous le dis tout de suite, c'est un gâteau limousin. Il s'agit d'un chou, un genre de chou à la crème. Voilà, pour vous donner des idées, hein, si jamais vous avez envie de passer à la boulangerie tout à l'heure.
Ah oui, oui.
Et Charles Lafarge va en manger une part et puis il va se sentir très mal avec des diarrhées, des nausées.
Bah, tout comme ça, je peux peut-être éviter.
Ça sera peut-être pas Marie Lafarge qui l'aura préparé, Jean-Michel.
Non, ce sera Marie Blachère.
Marie Blachère. Allez, une fois de retour dans le Limousin, il sera très affaibli et contraint de s'aliter. Mais il va pouvoir compter sur son épouse. La jeune Marie qui va le veiller jour et nuit, qui va lui préparer des bouillons, des potages et des tisanes. Dans le même temps, la belle-mère, vous savez, la maman de Charles Lafarge, qui a toujours détesté sa belle-fille, va trouver de la poudre dans un bol. Alors elle va se méfier, elle va la faire analyser par un médecin, et il s'avère que c'est de l'arsenic. Pressé de sauver son patient, le médecin s'affole. Il file rapidement à son cabinet pour aller chercher un antidote, mais dans la précipitation, il va se tromper de flacon. Et au lieu de donner un antidote, il va donner un poison à Charles, de l'oxyde de fer, ce qui va entraîner la mort de celui-ci 3 jours plus tard.
Donc c'est qui l'assassin ?
Je crois que c'est le médecin qui l'a tué finalement.
Pas de chance.
C'est une histoire de fou.
Il aurait mieux fait de manger le chou à la crème.
Bref, le procès pour le meurtre de Charles Lafarge débute. Et là, c'est pas le médecin qui est jugé, hein, c'est Marie Lafarge. Et dans ce procès, 150 témoins vont se précipiter à la barre. Certains vont accuser la jeune femme, d'autres vont l'innocenter. Mais après ces témoins, ce sont les experts qui défilent. Les 4 premiers affirment ne pas avoir trouvé d'arsenic dans l'estomac de la victime. Alors le tribunal va ordonner une deuxième autopsie. Et 10 experts vont affirmer ne pas avoir trouvé d'arsenic non plus dans le corps de Charles Lafarge. C'est alors qu'on fait appel à 2 chimistes de Brive pour la 3e autopsie. Et eux vont trouver de l'arsenic partout, dans l'estomac, dans les organes, mais aussi dans les vêtements du mort. Alors le tribunal, qui est un peu décontenancé, va demander une 4e autopsie. Un des avocats de la défense insiste pour confier cette tâche à un chimiste français. Il s'appelle Mathieu Orfila. Et en plus, Mathieu Orfila, c'est un des amis de cet avocat. Alors Mathieu Orfila est un spécialiste de la toxicologie et des poisons depuis plusieurs dizaines d'années. La défense espère une issue favorable et en septembre, Orfila témoigne devant la cour. Il a trouvé de l'arsenic dans l'estomac et il indique que cet arsenic vient d'un aliment qui a été ingéré. Alors le tribunal va arrêter les frais, c'en est fini du sort de Marie Lafarge. Elle va être condamnée aux travaux forcés, puis sa peine sera commuée en prison à perpétuité, et en 1851, elle va faire l'objet d'une grâce de Napoléon III. Encore aujourd'hui, il est impossible de déterminer si Marie Lafarge était coupable ou pas. Les conditions de l'époque pour les analyses et ses experts qui se contredisent sèment le doute. Il y a eu au fil des siècles, évidemment dans l'histoire, beaucoup d'empoisonnements. Et pour conclure cette chronique, je vais évoquer le cas d'Hélène Jégado. Alors Hélène Jégadeau, c'est une domestique dévouée, dont le premier cas suspect remonte à l'année 1833. Et pendant près de 20 ans, donc de 1833 à 1851, partout où elle passe, ses employeurs trépassent. Les symptômes sont toujours identiques, de la souffrance, des nausées, des diarrhées, bref. En 1851, elle va passer devant la cour d'assises de Rennes pour 34 assassinats dénombrés. Elle sera condamnée à la peine capitale et devant le prêtre, à la veille de son exécution, elle confiera avoir commis beaucoup d'autres assassinats, mais qui, eux, sont passés inaperçus. On ne connaîtra jamais le motif de tous ces crimes. C'était Aimé et plus fort que d'être aimé, interprété par Daniel Balavoine. Et tout de suite, est-ce qu'on a des nouvelles du fast-food, de la Roque?
Oh, bah, pour l'instant les nouvelles du FAS, pas trop, parce que ça va être les élections municipales.
Oui.
Donc, du coup, il se dit, bon là, je fais plus rien, je dis rien, je veux fâcher personne. Donc,
Jean-Michel, des nouvelles?
Non, mais j'ai juste un petit paragraphe que j'ai chopé là sur un réseau social dont je ne dirai pas le nom. Je vous raconte ce qui se passe en 2026 en France, dans les enseignes comme de fast-food. On doit demander l'autorisation pour tout, même pour aller boire ou aller aux toilettes. Et parfois, cette autorisation est refusée, surtout pendant les périodes de rush. Le corps humain devient alors une variable d'ajustement. Les salariés encaissent aussi la violence des clients, insultes, humiliations et parfois des coups. Ils n'ont pas le droit de répondre, ils doivent se taire. Seul le manager intervient quand il le juge nécessaire. Le reste du temps, la peur, la honte s'installe. Voilà, c'est en gros une partie d'un paragraphe d'un témoignage d'un cadre de la direction de cette fameuse enseigne. Voilà.
Donc, sur la violence, c'est vrai que ça arrive, mais dans beaucoup de métiers,
la violence au travail.
On est confronté au public.
Oui, tout à fait.
Après, ça dépend aussi, il y a des entreprises qui sont peut-être un peu plus respectueuses, mais là, on sait, il y a des cadences. On sait aussi, pour McDo, c'est eux, on sait aussi que ça dépend du manager. Il y a des boîtes... Dans certains trucs, on ne peut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Mais globalement, leur truc, c'est de faire du fric.
Oui, mais là, on parlait de la violence. Enfin,
ouais. J'ai évoqué la violence. Et la violence clients, au travail.
La violence des clients, c'est dans beaucoup de métiers.
Oui, aussi. Oui, tout à fait. On voit bien, dans le milieu hospitalier, il y a quand même pas mal de personnes qui s'énervent vite. Parce que la prise en charge, là ouais, aussi, elle est relativement longue. Bon, le fast-food, à l'avantage que ce soit rapide, au moins. La prise en charge est rapide.
Oui, mais la prise en charge, elle est rapide, justement, à quelles conditions pour les salariés, quoi.
Après, il ne faut pas se retrouver à l'hosto, aux urgences.
Après, peut-être que tu te fais agresser aussi là-bas.
Retrouver à l'hosto après un cornet de frites qui a été trop long pour être arrivé. Hein.
Par exemple.
Bon.
Donc, pas de nouvelles pour la ROC, parce que c'est le status quo, là, il ne va rien se passer.
Ça va être des élections, comme tu disais, ça va être les élections, donc pour l'instant, c'est un peu calme, voilà. Mais je pense que les gens qui sont contre, continuent à être contre. Hein.
Voilà. Non, tout d'un coup, ils ont changé d'avis.
on peut toujours changer d'avis.
J'ai envie de me faire un hamburger.
Ah oui, moi aussi, mais chez moi, quoi.
Bon, une petite devinette, peut-être.
Comme en ce moment, je suis dans les réseaux sociaux. J'en ai bouffé du réseau social. Mais en fait, c'était quoi le premier réseau social? Alors, je parle vraiment d'Internet. Reddit, c'est dans les plus vieux, 2005. Hein.
Ouais.
Reddit, et qui existe toujours. Mais non.
3615 Codulab.
Alors, on va parler Internet et pas Minitel.
Ah, d'accord.
Et alors, lui, c'est même pas ce que c'est le Minitel.
Non.
C'est un truc.
Ça qui est la réalisation, c'est parce que c'est le Minitel, bon, t'as bien raison.
En même temps, il est beaucoup plus jeune que nous, et surtout beaucoup plus jeune que Jean-Michel.
Il a jamais entendu parler du Minitel, il voit pas ce que
en plus, les communications étaient trop chères.
C'était autant des dinosaures. Et c'était le Internet français, mais qui marchait que pour la France, voilà.
Et Jean-Michel, il se connectait beaucoup sur 3615 vues, là.
Hein ouais, tout à fait, mais bon, après, ça m'a coûté un bras, quoi, donc j'arrête.
Non, alors c'était, figurez-vous que c'était européen, c'était suédois, et c'était en 1996. Et alors, ça s'appelait... Style Place ou Star Place. Bon, en fait, c'est un nom en suédois, je ne sais pas le dire, donc je l'ai américain anglicisé. Voilà. Et alors, c'était surtout des ados, déjà, qui traînaient là-dessus. Et c'était financé par de la pub, hein, c'était pas une entreprise.
Philanthrope.
Ouais, ils avaient environ 600 000 utilisateurs. C'était pas non plus. Je rappelle la date, 1996.
Ils demandaient aussi la carte d'identité.
Non, je pense qu'ils en avaient rien à battre. Et donc, c'est pour vous dire que les ados et Internet, c'est pas. Et les réseaux sociaux, c'est pas nouveau. Et alors, leur pic d'abonnés, c'était, enfin, d'utilisateurs, c'était 1,2 million. Et par contre, ça s'est arrêté en 2010. Et aux États-Unis, il y a eu aussi. Alors, ça a été développé en 1996, mais ça a vraiment commencé en 1997. C'était 6 degrés, parce qu'on aurait 6 degrés de séparation avec les gens. C'était ça le nom. Et puis après, il y a eu Friendster, mais c'était en Asie.
6 degrés de séparation, c'est-à-dire ?
Bah, on est séparés des gens par 6 degrés.
D'angle et... de 6 degrés Celsius.
C'est ça. Non, c'est non. On peut se connaître tous. En fait, par exemple, on va faire connaissance et tout. Et en discutant et tout, on va se rendre compte qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un.
Ah, d'accord. Voilà.
C'est très schématique, là, mais... Bon, enfin, bref, ils avaient choisi le nom par rapport à ça. Il paraîtrait qu'en fait, on n'a que 4,5 degrés de séparation avec tout le monde. Voilà. Bon, je suis sceptique, mais c'est comme ça. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, donc... Mais sinon, personne... Oui, il n'y a pas d'autres qui vous viennent et tout ? Vous avez connu, forcément, un réseau social. Tout le monde l'a connu. Enfin, peut-être pas.
Peut-être pas Issa.
Peut-être pas. C'est MySpace.
Ah non.
Je connais de nom, mais.
Ouais.
Non, moi, je connais MySpace Cake, mais c'est pas la même chose.
C'est autre chose. Mais en fait, tout ça a été tué par l'arrivée de Facebook en 2004. Voilà. Donc, il y avait Google en 2004 qui a essayé aussi de faire son. Orkut. De toute façon, c'était un nom pourri, ça n'allait pas marcher. Alors, ça fait un bit directement et tout. Et après, ils sont arrivés en 2005, Reddit, qui lui existe toujours. Parce que tout ce qui était avant Facebook, Facebook a tué tous les réseaux précédents. Donc, ensuite, 2005 aussi, comme Reddit, il y a eu YouTube. 2006, Twitter. 2010, Insta. Instagram. 2017, TikTok. Voilà. Voilà, voilà, c'est la fin de l'émission. Un petit proverbe chinois ?
Allez.
Si tu veux connaître le passé, regarde le présent qui en est le résultat. Si tu veux connaître le futur, regarde le présent qui en est la cause.
C'était Faites valser vos idées. Nous étions en direct. Merci à Lydia, merci à Jean-Pierre, merci à moi-même. La réalisation, c'est à Issa qu'on la doit. Merci à tout le monde, à bientôt. Merci, bisous et bientôt. Bisous.